Chapitre 9. Une guerre interminable. Les mois s'écoulent et les batailles se succèdent. L'avantage passe sans cesse d'un camp à l'autre, comme si les dieux n'arrivaient pas à décider qui sera le vainqueur. Déiphobe a été tué d'un jet de pierre par Patrocle, le meilleur ami d'Achille. Lycaon, un autre des nombreux fils de Priam, a été capturé par Achille lui-même. Eurypylos est mort, lui aussi, à peine marié à Cassandre. À vrai dire, elle n'a pas beaucoup pleuré cet homme qui l'a laissée indifférente. Mais c'est une mort de plus, une victime qui aurait pu être épargnée si on l'avait écoutée. Chaque matin, en se réveillant, la jeune femme se demande qui dans son entourage va mourir avant le soir. Elle a repris espoir le jour où les deux camps, estimant qu'il était temps d'en finir, se sont mis d'accord pour organiser un combat singulier entre Paris et Ménélas. Après tout, c'est le conflit de ces deux hommes qui a placé Grecs et Troyens dans cette situation impossible. C'est donc à eux d'y mettre fin. Hélène, la jeune femme qui a suivi Paris à Troie sans peser les conséquences de son acte, est montée sur les remparts pour assister au combat. Cassandre s'est postée à une certaine distance, préférant ne pas courir le risque d'être désagréable avec la belle grecque. Au début, Paris a semblé prendre l'avantage. À plusieurs reprises, il a frappé Ménélas, mais à chaque fois, sa pique se heurtait à l'épais bouclier de bronze de son ennemi. Puis Ménélas, à son tour, a brandi son arme et les Troyens ont laissé échapper un cri en entendant le bouclier se fendre de part en part. Paris, aussi rapide qu'un cerf, qu'un félin, a esquivé la pique, mais c'est alors que le grec, d'un mouvement preste, l'a saisi par son casque et l'a précipité au sol, où il l'a traîné sur une bonne distance. Le malheureux Paris était à moitié étouffé par la jugulaire qui lui serrait le cou. Le prodige qui s'est alors produit, Hélène et Cassandre étaient les mieux placés pour le voir, là-haut sur les remparts. Un nuage irisé a tout à coup enveloppé Paris, le rendant invisible aux yeux de son ennemi, et lorsque le nuage s'est dissipé, Paris n'était plus là. Un subterfuge d'Aphrodite, a murmuré Cassandre. Heureuse que son frère ait été épargné, elle ne se sentait pas pour autant très disposée à remercier Aphrodite. C'était bien le moins que la déesse sauve son protégé, puisqu'en lui suggérant d'enlever Hélène, elle avait été la cause de cette guerre. Hélène a dévalé les hautes marches de pierre et couru vers le palais de Priam, riant nerveusement et poussant des cris de joie, tandis que Cassandre regagnait sa modeste chambre en méditant sur la puérilité de ses semblables. Ensuite, les combats ont repris. On a fini par renoncer à compter victoires et défaites, demi-victoires et demi-défaites. Depuis combien de temps cela dure-t-il ? Des mois, des années ? C'est tout juste si on se rappelle encore de quelle façon le conflit a commencé. Cassandre a parfois l'impression que la guerre a suspendu le temps. À d'autres moments, il lui semble qu'elle l'accélère. Son père a presque l'allure d'un vieillard maintenant, et elle-même ne ressemble plus guère à la jeune fille qu'Apollon a visitée en songe. Quoi qu'il en soit, Troie tient bon, donnant tort à la jeune prêtresse qui annonçait sa défaite. Ses frères et sœurs la traitent d'oiseau de mauvais augure et l'évitent comme si elle souffrait d'une maladie contagieuse. Malgré son amour de l'indépendance, à certains moments, la solitude lui pèse. Alors parfois, lorsque le soir tombe, elle erre dans les rues de la ville, regarde travailler les tisserands, les orfèvres et les tailleurs de pierre. Elle parle aux mendiants, leur donne quelques pièces d'or, et le sourire qu'il lui offre en remerciement lui apporte un peu de réconfort. Arrive un soir pourtant où le sourire le plus doux ne pourrait l'apaiser. Car aujourd'hui, le plus valeureux des Troyens, le chef auquel tous les soldats obéissaient aveuglément, le grand frère qui lui a appris à reconnaître les étoiles, l'homme au casque scintillant, est mort. Hector avait déjà été blessé par un Grec appelé Diomède, mais il avait réussi à échapper à son agresseur et en avait fini par le croire invincible, comme le prétendait Andromaque. Mais depuis qu'Hector a tué Patrocle, Achille s'est juré de venger son ami de ses propres mains. Aujourd'hui, il s'est jeté sur Hector comme le faucon sur la colombe. Il l'a poursuivi jusqu'aux sources tourbillonnantes du Scamandre. Et là, à l'ombre d'un figuier, il a lancé sa pique de bronze. Les dieux avaient sans doute décidé que le Troyen devait mourir, car son épais bouclier a été transpercé aussi facilement qu'une feuille de papyrus, et le cœur d'Hector a été traversé de part en part. Triomphant, Achille a attaché des courroies au pied du mort, nouant l'autre extrémité à son char, et il l'a traîné en fouettant ses chevaux devant les Troyens atterrés. Le cadavre d'Hector tressautait contre les cailloux. Ses cheveux sont devenus blancs de poussière et son visage était méconnaissable. Andromaque, qui a assisté au combat depuis les remparts, a été ramenée dans sa chambre à demi-inconsciente. Les femmes sont rentrées se réfugier à l'intérieur du palais, loin des regards de la foule, tandis que Priam négociait avec Achille pour que lui soit rendu le corps de son fils. Achille a accepté en échange de plusieurs sacs d'or, mais le grec insatiable a exigé qu'on lui offre aussi pour le rachat du corps la belle Polyxène. C'est un marché ignoble, tu ne dois pas l'accepter, dit Cassandre à sa jeune sœur. Toutes deux ont de nouveau grimpé sur les remparts pour guetter le retour de leur père du camp des Grecs. Personne ne peut exiger de toi que tu te sacrifies inutilement, insiste Cassandre. Ce ne sera pas un sacrifice inutile, proteste Polyxène. Achille a promis d'essayer de convaincre les Grecs de retourner chez eux si je l'épousais. La prêtresse éclate d'un rire sinistre. Et tu le crois ? Comment peux-tu faire confiance à un Grec ? Il essaiera, bien sûr, mais il ne réussira pas, car cette guerre, ils la veulent. Jamais ils ne renonceront. Mon expérience ne t'a donc pas suffi ? J'ai accepté d'épouser Eurypylos. Et à quoi cela a-t-il servi ? Nous perdrons la guerre, je le sais. On ne peut rien contre cela. Perdons-la au moins la tête haute. Polyxène se détourne de sa sœur. Garde tes grands discours pour toi. Je refuse de t'écouter. Nos frères et sœurs ont raison, et nos parents. À force d'annoncer la défaite, tu démoralises tout le monde. Si nous sommes vaincus, ce sera de ta faute. Moi, du moins, je n'aurai pas de reproche à me faire, car j'aurai tout tenté pour sauver Troie. Cassandre esquisse un mouvement pour courir après Polyxène qui s'éloigne, l'attraper par ses longs cheveux, la retenir près d'elle et essayer une fois encore de la convaincre. Mais à ce moment, un char apparaît dans le lointain, si loin qu'il n'est encore qu'un petit point sombre sur l'horizon pourpre du couchant. Alors elle se dresse de toute sa taille et hurle « Troyens, le voilà, votre roi, qui rapporte la dépouille de son fils Hector. Venez tous, hommes et femmes de Troie, et formons un cortège pour aller au-devant de ce mort admirable. » Les Troyens sortent alors à un de leur maison, levant des regards effrayés vers la jeune femme qui se tient debout sur les remparts. Ses cheveux sombres flottant dans le vent sont semblables aux serpents entrelacés qui coiffent Méduse, et son regard est aussi terrifiant. Elle est probablement à moitié folle, se disent-ils. Mais dans le doute, mieux vaut faire semblant de la respecter, pour ne pas mécontenter les dieux.